Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Patrick Artus, conseiller économique de Natixis, qui a coécrit De l'économie d'abondance à l'économie de rareté chez Odile Jacob. Philippe Manière, le président de Veille Solis Communication, l'auteur du Pangolin et l'ISF, Comment le monde d'après nous rend tous fous, aux éditions de l'Observatoire. Gilles Raveau, maître de conférence à l'Institut d'études européennes de Paris 8-Saint-Denis, qui a publié Économie, on n'a pas tout essayé. Parmi les éléments à suivre dans les rabots, il y aura de la dépense sociale, c'est absolument évident. On parlera des taxis. Possible aussi que les retraites soient sous-indexées en 2025, à laisser entendre Thomas Cazenave, même si ça n'est pas définitif. Et voilà que la réforme de l'assurance chômage arrive. Voilà ce que Stéphane Carcillo, que vous connaissez tous ici, dit dans l'Opinion. Même si le marché ralentit, la croissance ralentit, le marché de l'emploi reste tendu, il faut donc augmenter les incitations de retour à l'emploi. Malgré les précédentes réformes, le système français reste le plus protecteur. Il faut jouer sur la durée d'indemnisation, par exemple en tombant à 14 mois d'indemnisation en dessous de 53 ans. C'est la durée pratiquée en Allemagne. Mais il ne faut pas toucher au montant, dit-il. Idéalement, il faut supprimer le système de pré-retraite unidique, cette retraite prépayée par l'assurance chômage à partir de 62 ans. Il faut généraliser le bonus-malus, mais ne pas le calculer en fonction de la durée des contrats, mais en fonction du coût de la séparation. Parce que la séparation d'un senior à 61-62 ans, ça coûte probablement plus cher car il a plus de mal à revenir sur le marché de l'emploi. Voilà. Et il va même jusqu'à défendre l'idée que l'assurance chômage soit aussi une assurance salaire qui va compléter pendant 2 ou 3 ans la perte de salaire d'un senior qui retrouve un job, mais un job moins bien payé qu'avant. Et il considère que la suppression de l'allocation spécifique de solidarité est une mesure de justice. Gilles, ça vous inspire quoi ?
Bah, beaucoup.
Vous allez me dire que c'est un gros méchant libéral, mais c'est un spécialiste quand même du sujet.
Non, mais ça m'inspire beaucoup trop de choses. Alors très rapidement, le premier point, c'est que je suis macroéconomiste et donc le fonctionnement du marché du travail n'est pas le premier facteur de compétitivité d'un pays. C'est même pas le deuxième et c'est même pas sûr que ce soit le troisième. Le premier, c'est effectivement, c'est les services publics. Les transports qui fonctionnent, c'est l'énergie, c'est l'éducation, c'est la recherche. Le deuxième, c'est ensuite ce qu'on pourrait appeler tout le système d'innovation, c'est-à-dire le lien entre la recherche, les entreprises, l'innovation, la recherche, tout ça. Bon, voilà, rien de tout ça s'effondre actuellement. C'est-à-dire qu'il faut, on le sait tous, hein, mais je me permets de le rappeler, c'est-à-dire que non seulement ça s'améliore pas, mais ça va de plus en plus mal. On le vit tous au quotidien et les indicateurs le montrent dans tous les domaines. C'est-à-dire que notre pays vit un véritable effondrement, certes au ralenti, mais un véritable effondrement. Et donc, arriver au bout du bout du marché du travail, je vais vous dire la vérité, ça ne m'intéresse pas. Budgétairement, il y a très peu à gratter, puisque là aussi, il y a l'inertie quand vous changez les règles, que rendre les gens pauvres, ça pose des problèmes, et que donc même le gouvernement s'est déjà dédié, puisqu'il avait dit qu'il allait supprimer l'allocation spécifique de solidarité. Et en fait, il a mangé la moitié de son chapeau, puisque cette suppression qui est absolument dingue sur le plan strictement humain, donc là, en opposition totale avec Stéphane Carcillo,
bien qu'on débatte, hein, mais...
qui lui, pour le coup, est sûrement a beaucoup plus que 6 000 euros à l'OCDE. Quand vous créez de la pauvreté, ça cause des problèmes. Et que donc, je termine, le gouvernement a dit que la suppression de l'ASS ne concernerait que les nouveaux entrants et non pas les gens qui y sont actuellement soumis. Encore une fois, on a un énorme problème d'efficacité de notre pays, d'augmentation du taux d'emploi. Là aussi, les réponses sont connues et je termine là-dessus. Gabriel Attal, il a dit « Attendez-vous à des décisions difficiles sur l'emploi, l'assurance chômage. » C'est l'inverse. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est facile. C'est-à-dire que n'importe qui, vous, moi, demain, vous êtes ministre, vous baissez les allocations, ok.
Il ne s'agit pas de baisser les allocations. Hein.
Non, mais réduire la durée, baisser les allocations.
C'est pas la même chose.
Bon, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que dans tous les cas, que ce soit réduire la durée et baisser les allocations, c'est facile. C'est un décret, c'est facile. Par contre.
Surtout que ça passe bien dans l'opinion, ce genre de.
Alors, voilà, il court après l'opinion, qui a basculé, tous les sondages le montrent. Très longtemps en France, on a des sondages sur des décennies, très longtemps en France, quand vous demandiez aux gens, à la population, est-ce que les chômeurs sont responsables de leur situation, la majorité des Français disaient non. Le chômeur n'est pas responsable de sa situation. Maintenant, quand vous posez cette question, la majorité des Français disent oui. Pourquoi ? parce que la pauvreté, la précarité augmente énormément dans notre pays et que comme dans tous les autres pays, plus on est pauvre, plus on est précaire, moins on est solidaire. Grande leçon de l'histoire qui a conduit à des petites tragédies. Je vous laisse y réfléchir. Donc je termine simplement. Ce que fait Gabriel Attal, c'est honteusement facile. C'est honteusement facile. Ce qui est difficile, et c'est un des échecs majeurs, effectivement, de la majorité actuelle, qu'on va se trimballer pendant encore presque 4 ans, c'est l'éducation. C'est l'augmentation du taux d'emploi. Ça, c'est difficile.
Oui, ça, c'est difficile.
Et oui, là, ça demande de la vision à long terme. Ça demande du vrai courage politique. Ça demande de l'intelligence. Voilà.
C'est une réforme structurelle à même d'augmenter le taux d'emploi, vous croyez? Alors après, il y a la question de savoir est-ce qu'il faut la faire maintenant, pas maintenant. Mais est-ce qu'on est sur une réforme structurelle, et ce n'est pas la première, qui peut améliorer le taux d'emploi? Il utilise, Carcillo, l'idée de... L'expression est très très claire. Augmenter les incitations de retour à l'emploi.
Mais je crois que le bon modèle, c'est le modèle des pays nordiques, par exemple du Danemark. Alors, il y a déjà des choses. Il y a un travail d'Alexandra Roulet qui montre que lorsqu'un Danois perd son emploi, il n'y a aucune conséquence sur sa santé. Alors que quand un Français perd son emploi, il y a des conséquences graves sur la santé, aussi bien psychique que physique. Et donc ça ne génère aucun stress dans un pays qui a un modèle du marché du travail du type de celui du Danemark, de perdre son emploi. Parce que le niveau d'indemnité est extrêmement élevé, c'est pratiquement un remplacement à l'identique du salaire antérieur, et parce que la personne sait qu'elle retrouvera un emploi très rapidement, parce qu'il y a un marché du travail qui tourne beaucoup, avec énormément de dépenses actives du marché du travail. C'est des dépenses de formation, de recyclage, d'apprentissage de nouveaux métiers. Et donc, il faut viser à avoir un marché de l'emploi hein, du type danois, c'est-à-dire le chômage n'est pas un problème. Même au Danemark, on démissionne beaucoup, parce qu'on sait que si on passe par une période de chômage, d'abord on perdra très peu d'argent et on retrouvera un emploi mieux. C'est très bon pour l'économie parce que ça fait partir les salariés des mauvaises entreprises et aller les salariés dans les bonnes entreprises. Ça n'a pas de coût humain. Et alors simplement, c'est cher. Parce que d'abord on gagne pas d'argent sur l'indemnisation du chômage parce que c'est une indemnisation courte mais élevée et puis qu'il y a énormément d'argent qui est mis dans la qualification, la formation, etc. Mais c'est le modèle vers lequel. Alors le risque c'est qu'on ne fasse qu'un demi-pas vers le modèle, qu'on réduise les durées d'indemnisation. Et qu'on n'améliore pas les politiques du marché du travail pour les chômeurs, donc on n'aide pas mieux les chômeurs à retrouver un emploi.
Philippe Manière, par rapport à ça?
Non, mais moi, si vous voulez...
Sachant que c'est le prochain coup de rabot un peu sévère auquel on va assister.
Oui, alors là-dessus, quand même, un tout petit point, j'allais dire d'ordre institutionnel, mais qui a son importance. L'accord Unédic qui a été signé par les partenaires sociaux est tout frais. L'idée qu'on va là maintenant, alors qu'ils sont encore en train de négocier une queue d'accord, imposer... Alors que cet accord a été négocié et conclu dans le cadre qui avait été fixé par l'État. Donc il y a quelque chose, moi, je trouve, d'un peu incohérent à dire négocier de bonne foi, voilà le cadre, vous n'avez pas le droit d'en sortir, les gars négocient, ils signent et puis pour leur dire merci beaucoup, là maintenant on va faire une nouvelle réforme.
Avec qu'a dit Catherine Vautrin ce week-end, si ça marche pas, on reprend la main comme d'habitude.
Oui, bah c'est ça. Donc, voilà. Mais il y a un minimum de délai de viduité ou bien alors, il faut dire aux partenaires sociaux qu'on veut se passer d'eux, mais c'est pas ce qu'on leur dit. Bon, donc,
c'est ça, ce qu'on veut, mais c'est pas ce qu'on leur dit. C'est ce qu'on veut, mais c'est pas ce qu'on leur dit.
Deuxième bizarrerie en termes de timing, on nous a dit que l'indemnisation du chômage allait devenir variable en fonction du cycle économique. Ce qui est pas absurde. Ça serait contracyclique. Autrement dit, quand l'économie se dégrade, on est un peu plus généreux avec les chômeurs parce qu'on sait que c'est plus difficile de retrouver du boulot. Puis quand l'économie va bien, on est un peu plus restrictif sur l'indemnisation du chômage parce qu'on dit, les gars, si vous cherchez, vous allez trouver. Regardez, l'économie est bonne. Je suis pas sûr que ce soit très intelligent, mais en tout cas, on nous a présenté ça comme ça.
Ça a été présenté comme ça.
Si on nous présente ça comme ça, si on va vous faire une réforme pour qu'il y ait une contracyclicité de l'indemnisation du chômage, alors la période dans laquelle on est de ralentissement de l'économie ne me paraît pas objectivement très favorable à la mise en œuvre d'une restriction des conditions d'accès à l'indemnisation chômage.
Là, puisque c'est discutable.
Puisque non, mais... précisément, ce serait non pas... ça serait pro-cyclique. Hein, voilà.
Donc, oui, mais...
Donc, alors, tout ça, honnêtement, est un peu du second ordre. Mais c'est pour vous dire qu'on nous raconte quand même beaucoup de gaudrioles. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Est-ce que c'est les partenaires sociaux qui ont la main ou pas? Moi, j'y suis plutôt favorable, mais je comprends que ça soit autrement. Mais on peut pas dire A le matin et B l'après-midi. Est-ce qu'on veut faire du contrat cyclique ou est-ce qu'on dit là, le chômage va augmenter, on va baisser l'indemnisation, ce qui est exactement le contraire. Là encore, j'ai pas d'opinion parce que je pense que ça est un peu du second ordre, mais on ne peut pas dire aux gens A le matin et B l'après-midi. Donc moi, je suis frappé par ça. Ce qui me frappe le plus, c'est la désarticulation entre les politiques, la politique, au sens politique-politicienne, mais même politique noble, c'est-à-dire la conduite des affaires de l'État, et l'analyse, la compréhension des politiques publiques. C'est un mal français général. Hein. On voit ça également d'ailleurs dans la presse, où d'un côté il y a les gens qui connaissent la politique, puis de l'autre côté il y a les gens qui couvrent les politiques publiques dans les services éco et social. Si vous parlez avec un journaliste politique, moi j'ai pas trop le temps de me penser sur le RSA au Danemark ou sur l'organisation des pouvoirs en Allemagne, parce que moi je m'occupe de la course de petits chevaux. Et donc c'est une pathologie française, cette dichotomie. D'un côté, il y a les gens qui s'occupent de la politique au sens course de petits chevaux, puis d'un autre côté, il y a ceux qui s'occupent des politiques publiques, qui est quand même le vrai sujet important. Là, en l'occurrence, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui est important. Patrick le rappelait, s'agissant d'une marque, mais il y a d'autres modèles. Une vraie compréhension fine, et il y a des tas de papiers qui ont été écrits par des tas d'économistes, de la manière dont les gens se comportent sur le marché du travail en fonction des signaux qu'ils reçoivent, permet de mettre en œuvre les bonnes politiques publiques.
Carcillo vous dira la mesure la plus efficace a toujours été la réduction de la durée d'indemnisation.
Bon, alors exactement, mais j'allais y venir, si vous voulez. Je vais être brutal. Si on devait résumer 250 ans d'économie et de sociologie en un mot, ce serait incentive. En gros, les agents font en fonction des signaux qu'ils perçoivent. Donc la responsabilité des pouvoirs publics quand ils ont un rôle dans un domaine de l'économie ou de l'organisation des pouvoirs, c'est d'envoyer les bons signaux. On sait, c'est bien documenté, que les gens ont d'autant plus de chances de retrouver du boulot qu'ils cherchent vite. Et on sait aussi que s'ils n'ont pas effectivement la crainte de perdre du revenu, en particulier en début de période de chômage, ils sont plus en situation de réfléchir tranquillement à leur avenir, de s'occuper de leur formation, etc. Donc, il est évident, si on conclut de toutes ces études qui vont dans le même sens, qu'il faut une indemnisation assez élevée par rapport au dernier revenu, mais qui soit relativement courte pour que les gens soient incités à revenir dans l'emploi. Et il est évident aussi qu'il faut qu'il y ait le plus de delta possible à partir du moment où on a fini cette période d'indemnisation généreuse entre ce que vous auriez en inactivité et ce que vous pourriez trouver sur le marché du travail. Tout ça ressorti au pur bon sens. Alors après, il faut des gens qui aient le courage dans la sphère politique de comprendre et d'appliquer ce qu'on a compris dans la sphère des politiques publiques et qui fassent des trucs, vous savez, c'est comme pour la fiscalité. C'est pas rocket science, simplement faut le faire sérieusement. Donc il faut une bonne indemnisation pendant 2, 3, 4 mois pour discuter, puis après il faut que ça baisse pour que les gens soient incités à retrouver du boulot, et puis s'ils n'ont pas retrouvé au moment parce qu'ils sont effectivement, objectivement, trop loin de l'emploi, alors on les indemnise à nouveau plus haut. Il y a 40 manières de dessiner cette courbe, mais elle ne peut pas être paresseuse, elle ne peut pas être linéaire. Il faut optimiser en fonction de ce qu'on sait en économie et en sociologie. Et tout ça, il faut le dire, on le sait. Donc tant qu'on est dans ces systèmes sous-optimaux, alors que sciemment, qu'on l'est sciemment, parce qu'on sait qu'il y a des systèmes alternatifs plus efficaces, on est vraiment, à mon avis, extrêmement critiquable du point de vue du citoyen qui regarde ce qui est en train de se passer. C'est un théâtre, il faut optimiser. On connaît les critères d'optimisation. Et là encore, il faut le faire de manière structurelle et pas conjoncturelle. On revient, c'est la même question que celle de la dette et du déficit.
Je suis d'accord quand vous dites que tout ça est parfaitement renseigné. Et là on est...
Oui.
Il y a Sam qui me dit, Monsieur Artus a raison, les pays les plus prospères d'Europe ont l'assurance chômage la plus généreuse du continent. Et puis Sébastien me dit, il est plutôt très bon, Gilles Raveau, ce matin chez Nicolas Dose. Plutôt très bon. Pas très bon, mais plutôt très bon. Il faut y être meilleur quand même.
Hein. Non, mais je voudrais juste rajouter un truc. C'est vrai que ça me fait... Bon. Ah bon, ça sert à rien de rajouter, mais ça me rend triste tout ça. Il se trouve que j'ai soutenu ma thèse en 2005, notamment sur ces questions-là.
Les questions de
De marché du travail en Europe et de comparaison des systèmes. Voilà, et donc c'est vrai que ça me fait à la fois chaud au cœur et tout très triste d'entendre Patrick Artus nous dire le modèle danois. Enfin, ça fait combien de... Je sais pas, la première fois que vous avez défendu le modèle danois, quoi, c'est peut-être il y a 25 ans. Enfin, ouais, je veux dire, faut voir ce qui se passe. La nullité de nos dirigeants est quand même...
J'ai pas mal d'économistes qui considèrent qu'effectivement, on pisse tous dans un violon.
Parce... Et donc, tant qu'on y est, effectivement, à s'auto-flageller entre Français, je voudrais rajouter, parce que je pense que c'est un point très important, la très grande nullité de nos hauts fonctionnaires.
À ce point-là.
Qui n'ont pas compris, et donc je m'adresse aux jeunes là, qui vont le devenir, les étudiants, s'il y en a qui m'écoutent, l'énorme erreur qui est faite dans notre pays, et qui n'est pas faite dans les pays nordiques, c'est que nos hauts fonctionnaires n'ont pas compris que, vous l'avez très bien dit, ce qui compte dans ces politiques, c'est ce qui se passe sur le terrain.
Oui.
Et un des indicateurs, justement, qu'on regardait il y a donc déjà 25 ans, c'était le nombre de conseillers par chômeur. Qui évidemment était beaucoup plus élevé, beaucoup plus élevé. On parle d'un facteur 2 ou 3 à l'époque, hein, ça s'est légèrement amélioré. D'ailleurs, Emmanuel Macron le savait, tout ça c'est très curieux. En 2017, il était nourri de ses études, il disait exactement ça. La création de France Travail, c'était exactement ça, c'était de dire on a un problème, on ne vient pas assez bien au soutien des chômeurs et au fonctionnement du marché du travail, même si on pourrait contester cette explication. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'au Danemark, non seulement les conseillers d'emploi sont plus nombreux, mais ils sont bien payés. Pourquoi ? Parce qu'un conseiller emploi qui travaille bien, il fait gagner de l'argent. Il fait gagner de l'argent au pays, à l'État, à la collectivité. Et ce que nos hauts fonctionnaires n'ont toujours pas compris en France, c'est que on ne peut pas, ni à l'université, ni nulle part, avoir des services publics qui fonctionnent bien si on n'a pas des bons travailleurs bien formés, bien payés. Et donc, pour tous les amis sur la baisse de la dépense publique, je suis tout à fait d'accord qu'il y a des dépenses qu'on pourrait diminuer. Mais je voudrais quand même rappeler les chiffres de François Gérolf, notamment économiste à l'OFCE. Je vous dis ça simplement. On vit dans un pays où les jeunes sont libres de choisir leur métier. D'accord ? Ils font ce qu'ils veulent, les jeunes. Notamment les plus diplômés, évidemment. Mais tous, ils font ce qu'ils veulent. Ils détestent la fonction publique. D'accord ? Nos locaux sont dégueulasses. On a la pire bureaucratie. On a des ordinateurs qui datent de 1950. Donc ils n'ont pas envie de venir. Okay ? Mais vous avez besoin de très bons fonctionnaires. Simplement, le niveau de vie des fonctionnaires au cours des dernières années, c'est une chute de niveau de vie de 25%. Voilà. Donc je vous le dis simplement, vous pouvez convoquer toute la théorie que vous voulez en économie, en sociologie, etc. Tant que vous n'aurez pas des fonctionnaires vraiment bien payés, à France Travail, dans les universités, chez les instituteurs, les institutrices, vous n'arriverez à rien. Donc vous pouvez continuer, vous pouvez chouiner. Je ne suis pas du tout pour la dépense publique. Je vous dis juste, regardez la réalité du pays, regardez l'état de nos services publics, regardez notre jeunesse. Si vous n'avez pas une forte hausse de tous ces emplois qui sont des emplois difficiles, qualifiés, on n'arrivera à rien du tout.
Juste, Dominique dit merci à Philippe Manière pour sa clairvoyance et son bon sens. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Allez-y, Patrick. Je veux qu'on parle des taxis après.
Oui, non, juste un mot en réaction. Si on compare, alors c'est très compliqué de comparer les salaires des enseignants en France et dans d'autres pays, parce que ça dépend du moment de la carrière. Mais enfin, si on compare un enseignant en moyenne en France du primaire ou du secondaire et un enseignant en moyenne en Allemagne, il y a un écart de 50% sur le salaire.
Oui, mais il y a un écart de temps de travail considérable
Et alors pourtant, les dépenses publiques d'enseignement en Allemagne sont le même pourcentage du PIB qu'en France. Et donc le problème aussi, c'est la répartition de l'emploi dans le ministère de l'Éducation entre les gens qui travaillent dans les fonctions support au ministère, etc., et les gens qui sont sur le terrain dans l'éducation.
Et le temps, on l'a dit mille fois, ça, Patrick Cartus.
C'est comme le modèle
danois qui était dans la thèse de 2005 de Gilles Rameau.
Ça change pas.
Oui, mais c'est terrifiant.
Et alors après, on constate qu'on ne peut pas augmenter les fonctionnaires et on est complètement bloqué. Ouais. Et donc il faut absolument.
Pardon, j'insiste, il y a le temps de travail. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont. Non, mais bien sûr que si, dans l'éducation. Regardez, le temps de travail des enseignants allemands, c'est 25-30% de plus que le temps de travail des enseignants français.
Je défends.
Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on est mitridatisé, mais c'est comme les vacances judiciaires. Si vous voulez, au bout d'un moment, on ne se rend absolument plus compte. Mais la générosité en temps interdit d'être généreux en argent. Vous ne pouvez pas donner aux gens 12, 14, 15, 20 semaines de vacances et les payer aussi bien que s'ils travaillaient comme tout le monde, une année moins 5 semaines de vacances, plus une ou deux semaines de RTT. Ça n'est pas possible. Et l'Allemagne, ça montre ça. En Allemagne, les enseignants travaillent bien plus.
C'est faux. Sauf que...
J'ai pas le temps de travail.
Et je pense que c'est un meilleur deal. Je pense qu'on ferait mieux de payer mieux nos enseignants et de leur demander un peu plus de temps de travail.
Votre raisonnement, il est impeccable en théorie. Il est simplement faux dans la réalité. Il y a une variable très importante que vous oubliez, qui est le nombre d'élèves par classe. Il se trouve, les statistiques de l'OCDE, que le nombre d'élèves par classe en maternelle et en primaire sont très supérieurs en France à ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe dans les pays nordiques, mais très supérieurs. Ce qui veut dire... Non, mais regardez juste, renseignez-vous. Je trouve que c'est un domaine que je connais. Ce qui veut dire dépense publique par élève, la dépense, ce que nous coûte chaque prof par élève en France, juste le prof, est très inférieur. Très inférieur. Vous avez des moyennes incroyables. En Suède, on parle de 10 enfants par classe. Au primaire. Au Portugal, on est à 15. En France, on est à 25-30. Non, mais je vous dis, votre raisonnement, il tenait, sauf que là, il y a cette variable que vous n'avez pas prise en compte, qui change absolument tout.
Voilà. Mais Gilles, il y a aussi quand même la question soulevée par Patrick, mais je pense qu'on la posera encore après notre mort. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas avoir... J'ai regardé les chiffres allemands, 51% du budget de l'école paye les profs, 49% paye la machine. En France, c'est quasiment 80% qui paye la machine et 20% qui paye les profs.
Juste pour dire là-dessus,
je vérifie mon truc.
Il y a quand même plus qui va aux profs. Enfin, il y en a pas suffisamment, il y en a moins qu'ailleurs.
Non, mais il y a un petit biais dans le calcul parce qu'en Allemagne, en fait, il y a des dépenses locales d'éducation qui sont mal prises en compte. Donc, on a un petit problème de calcul dans la statistique. Mais je redis pour satisfaire les retraités millionnaires qui nous écoutent, qui feraient mieux d'investir dans les PME qui ouvrent près de chez eux. Je rappelle qu'effectivement, Patrick Artus l'a dit.
Ça fourche à languer.
Ouais, exactement. On est coincé parce qu'on a ce stock de fonctionnaires. Donc effectivement, la solution inévitable, c'est qu'il faut supprimer le statut de la fonction publique et qu'effectivement, il faut supprimer tout un tas d'emplois avec les nouvelles technologies, etc. Voilà, c'est évident que c'est ça qu'il faut faire. Mais oui.
Vous allez vous faire interroger par Marc Vigneault de l'Opinion à nouveau, vous. On a 7 minutes. Est-ce que vous comprenez la colère des taxis? On a mis en place un système de transport sanitaire qui est très largement remboursé par la Sécurité sociale. Ça coûte 5,5 milliards d'euros par an à l'assurance maladie. On leur dit, écoutez, si vous voulez garder cet avantage, eh ben, il faudra faire du covoiturage dans le transport sanitaire. Et donc, c'est colère généralisée, notamment dans les régions, parce qu'ils vivent très largement. Ouais. C'est, vous les comprenez?
Non, mais moi, je comprends toujours les gens qui ne sont pas contents parce qu'on leur enlève des sous. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une rente.
Oui, c'est une rente.
Il y a une rente qui s'est installée. Alors ça, c'est très intéressant aussi en termes de politique publique. C'est-à-dire que parfois, on fait une bêtise qui dure tellement longtemps qu'on ne peut plus la corriger. Ah, là, oui. Parce que vous avez, effectivement, depuis à peu près une génération et demie, des milliards de gens qui vivent dans les régions de transport sanitaire. Quand vous discutez avec un chauffeur de taxi dans un territoire en France, il vous explique que, selon les cas, entre les 3/4 et les 9/10 de ses revenus viennent des transports sanitaires. Il y a des exceptions, je ne veux pas généraliser, mais il y a énormément du chiffre d'affaires des taxis qui est produit par le transport sanitaire. Alors, est-ce que c'est bien? Oui, parce que à certains égards, pourquoi on est rentré là-dedans? À certains égards, c'est mieux que de payer une ambulance. Donc, l'idée, au départ, c'est de dire, il vaut mieux qu'ils prennent le taxi plutôt que de prendre l'ambulance. Sauf qu'à l'arrivée, si vous voulez, vous vous retrouvez avec des tas de gens qui utilisent ça. Alors c'est très difficile de dire non, mais parce que en fait certains pourraient prendre leur voiture et c'est vrai, certains pourraient demander à leurs proches de les amener et c'est vrai, certains pourraient prendre le train parce qu'ils n'ont pas grand chose d'autre à faire et c'est pas très loin et c'est vrai, mais qui va décider de ça?
Ben voilà.
Personne. Et donc à l'arrivée, vous donnez un droit absolu. Tout le monde peut dire, moi je veux être emmené en taxi et la Sécu paye. Et quand on arrive à 5 milliards
c'est quand
d'euros
même lourd, et c'est lourd.
On peut comprendre que ceux qui sont en charge des finances publiques et qui voient la dérive aient envie de corriger. Simplement, si vous mettez du point de vue de celui qui est bénéficiaire de la rente depuis 15, 20, 25 ans, effectivement, il n'a pas envie de la perdre. Et donc, là aussi, c'est bien documenté. La solution, c'est de racheter la rente.
Oui. Est-ce que déjà que Delpa, il faut payer pour
le voilà. On dit aux gars, c'est fini. Alors, soit vous faites le gros covoiturage, on regarde les économies que ça fait, puis on leur dit, on vous en laissera 20%, ou bien alors, on vous rachète vos licences, ou que sais-je. Mais on ne peut pas retirer une rente. C'est une rente qu'on leur a donnée à tort, évidemment. Donc ils ont tort de se plaindre intellectuellement, mais ils ont raison du point de vue, parce que la dépense publique, c'est une recette privée, comme le disait Gilles tout à l'heure. Donc il faut leur retirer ça dans toute la mesure du possible, mais en les indemnisant, puisqu'on a fait la bêtise de le laisser à penser qu'il y avait un bien fondé.
Comme vous dites,
à leur exercice.
Quand ça dure très 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 longtemps, c'est ça foutu. Devient un avantage acquis.
Voilà.
C'est définitif. Patrick, cette histoire-là...
Non, je suis d'accord avec Philippe. Bon. La seule solution, c'est de racheter la rente.
Ouais.
Le problème, c'est le coût d'achat, parce que si la rente est rachetée à sa vraie valeur, il y a aucune économie pour l'État, quoi, je dirais. Donc, ça sert à rien de la racheter. Donc,
comment tu valorises la rente?
Donc, on a fait une erreur de politique économique, mais on ne peut pas... Et puis, les gens qui ont acheté des licences de taxi, compte tenu du fait qu'il y avait cette rente dans le prix de la licence. Donc, on ne peut pas les spolier. La spoliation du détenteur de rente, c'est très dur, quoi, je dirais. Donc ça ne fera... C'est pas une piste d'économie, en réalité, pour l'État.
Allez, un mot pour terminer. Je me tourne vers vous, Gilles. Je sais que vous aimez bien ce sujet sur l'histoire de la fast fashion. Alors, un peu par principe, j'ai pris le contre-pied de Jean-Marc Daniel ce matin. Ouais. Je fais court, parce qu'on a 3 minutes 40. Jean-Marc, il est arrivé en disant, mais c'est du protectionnisme. Oui, c'est du protectionnisme, effectivement. Et puis, on essaye de préserver les acteurs du textile qui ont une implantation économique sur le sol de France. C'est clairement une proposition de loi qui vise des Chinois. Et moi, j'ai dit, pour être un peu... je suis d'accord avec lui fondamentalement, mais il y a un moment aussi les business de Temu, de Shine, d'Alibaba qui vendent des saloperies en polyester à 1,50€ qui traversent la planète pour venir atterrir chez des gens qui vont les porter 3 fois avant de les mettre à la benne. Il y a peut-être un moment où ça a assez duré, quoi.
Bon, je mets mon chapeau de vieux con.
Allez, 3 minutes 10 de chapeau.
Puisque il se trouve que c'est
on va pas vous reconnaître.
Il se trouve que c'est les jeunes gens que je vais retrouver là tout à l'heure et avec qui je travaille 2 jours par semaine, car je fais cours quand même 2 jours par semaine, rendez-vous compte, pour mon salaire, c'est quand même quel sacerdoce. Je pense vraiment que, à bien des égards, les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucune chance. C'est-à-dire qu'ils ont un instrument du diable dans les mains, qui est ce téléphone, qui était très très bien conçu par des gens extrêmement intelligents, les meilleurs d'entre nous, les plus balèzes en maths, en sciences.
C'est un Français qui a fabriqué l'iPhone.
En psychologie,
c'est un ingénieur français. Jean-Marie Hulot qui a créé l'iPhone en 2007.
C'est comme passage. Je crois qu'à peu près tout ce qui a été inventé de bien dans le monde est plus ou moins français.
Mais oui, c'est
la TVA,
c'est
admirable.
C'est un prix Nobel français qui a inventé le disque dur.
Et donc, il se trouve que, alors je leur rends hommage, voilà, j'ai eu deux étudiantes qui ont fait un excellent exposé la semaine dernière sur TikTok.
Ouais.
Et la façon dont TikTok est utilisé par les mouvements d'extrême droite, c'est absolument effrayant.
Mais là, vous avez...
Et donc, pour revenir... Non, on ne s'éloigne pas du tout. Pour revenir dans ce truc-là, il est bien évident que des entreprises, on ne sait pas comment il faut prononcer, la Temu,
Shine, Alibaba, enfin Temu et Shine, c'est les deux principales.
Ces entreprises qui ne doivent pas exister. Enfin, je veux dire, j'ai regardé parce que comme je lis régulièrement des articles sur BFM Business consacrés à ce sujet, je reçois maintenant les notifications de Temu sur mon téléphone. Donc je suis allé voir, mais allez-y.
Aussi, je suis allé voir.
Mais les prix sont absurdes. C'est-à-dire que voilà,
machins à moins de 1 euro.
Voilà, qui sont on vous propose des choses manufacturées.
Oui.
Donc je sais pas par rien, même pas des machines, enfin voilà, bon, dont le coût de production est zéro, dont le coût de transport doit être zéro manifestement, qui sont quand même vendus en France où il y a quand même quelques impôts hein, sur ce qui est vendu en France, et vous avez voilà des objets à 1 euro qui sont neufs, ça n'a aucun sens. Et donc c'est pour ça que je dis que je pense que notre jeunesse n'a aucune chance de s'en sortir, c'est qu'elle reçoit, elle est bombardée de messages, encore une fois comparé à des gens de notre âge, qui leur dit que c'est légal, que c'est normal, que c'est possible,
c'est pas illégal,
que c'est chouette. Mais tout est là.
Mais non, mais cette proposition de loi, du coup, elle va dans le bon sens.
Mais non, mais c'est de toute façon, encore une fois, enfin bon, le libre-échange intégral n'a jamais existé. La seule exception, la seule vraie exception historique, c'est le Royaume-Uni à un moment où au 19e siècle, ils sont tellement en avance sur tout le monde qu'ils peuvent se le permettre. Tout ça n'a aucun sens. Et donc, je veux dire. Évidemment qu'il faut interdire ces trucs-là. Il faut envahir la Chine et faire fermer
le nombre de trucs que je désapprouve. Enfin, moi, je suis absolument navré par le matérialisme des temps que nous vivons, mais je suis à peu près aussi navré par ça que par les gens qui payent une montre 20 fois ou 30 fois sa valeur d'usage ou une voiture 20 fois ou 30 fois sa valeur d'usage. Tout ça me paraît ridicule et assez révoltant.
Mais
qui suis-je pour m'autoriser à interdire à ces gens-là d'acheter une voiture très chère ou des fringues pas chères? Je ne m'autorise pas à interdire aux gens de faire des choses que je désapprouve moralement.
Ça s'appelle la
liberté.
Elle veut pas interdire cette proposition.
Elle veut faire quoi? Taxer?
Elle veut faire payer celui qui va. Elle veut mettre un malus jusqu'à 10 euros par produit.
Ça va créer
acheté.
Des emplois de fonctionnaires. Allons-y.
Voilà. Alors, on va lui dire que le malus c'est la plateforme qui le paye, mais enfin, ce sera le consommateur. Et elle veut interdire à ces plateformes de faire de la pub.
Mais il y a un effet négatif de
le mot de la
ça.
Fin, Patrick. On a fait.
Oui, qui est la disparition des boîtes de textiles intermédiaires en niveau de qualité en Europe.
Et ça c'est un bain
de sang. Dans le textile milieu de gamme quoi.
Voilà, mais il y a aussi, mais c'est là où il y a un relent de protectionnisme parce qu'on se rend bien compte que il y a eu de l'émotion quand on a vu disparaître Camailleux, André, Koukaï, et qu'il y a une volonté effectivement, notamment d'aller soutenir ceux qui ont une implantation économique sur le sol français.
Mais c'est trop tard, ils sont morts.
Bon. Oui, c'est ça.
Mais non, mais c'est vrai.
Mais c'est ça.
Bon, on ferme, me dit-on, donc on ferme.
Alors on ferme.
On ferme tout.
On rouvre demain à 9h. Merci d'avoir été là, Patrick Artus, Philippe Manière, Gilles Raveau.